Donc nous allons ouvrir la session 9 qui pose la question des valeurs ajoutées. Alors je voulais excuser parce qu'il nous a demandé Jean-Louis Levé qui devait être directeur de la session, qui avait préparé un petit peu la présentation et qui était chargé de la clôture. Voilà, donc on essaiera de quand même de faire une clôture par rapport à lui. Au moment de la préparation des premières réunions du comité d'organisation pour le colloque, a émergé l'idée de faire un petit point sur l'évolution des métiers, du travail, des organisations dans la fonction publique. Cette tâche, elle est évidemment impossible parce qu'il y a trois fonctions publiques, hospitalière, d'État, territorial, parce qu'elle représente 5 millions d'agents, un tout petit peu plus, organisés autour de, on va dire, à peu près 600 métiers repérés. Alors, devant l'insistance bienveillante et les encouragements et puis la confiance de messieurs Clos et Barthos notamment, j'ai accepté d'essayer de faire ce petit exercice avec vous. J'ai essayé de structurer un petit peu l'intervention autour de trois grandes idées. Alors ça sera forcément large, l'exhaustivité est évidemment pas possible sur des questions comme ça, et le champ est tellement large que c'est vraiment compliqué. Donc on essaie de le structurer autour de trois idées, essayer de vous présenter, de témoigner un petit peu des évolutions structurelles, culturelles, profondes, voire brutales, qui redéfinissent depuis peu le travail et le rapport au travail des fonctionnaires, essayer de dresser un petit peu un panorama forcément imparfait et large des principaux effets, changement de repère, recomposition des activités et des tâches et des frontières de métiers mouvantes. Et ensuite essayer non pas de redéfinir comme je l'ai mis là des identités professionnelles, mais essayer de vous faire part d'un étonnement et d'une piste de réflexion autour de ce qui joue ou ce qui touche à l'identité professionnelle. Sur les évolutions structurelles et culturelles, d'abord, on constate sur une vingtaine d'années de gestion publique, les 20 dernières années, une récurrence des efforts mais des leviers d'action, mais qui s'inscrivent maintenant dans une activité particulière. Ces axes de réforme, ils sont connus, j'y passerai pas trop de temps. C'est principalement l'intrusion d'une logique de gestion de la performance, souvent liée à des composantes financières, à une logique d'économie, de maîtrise des dépenses publiques. Deuxième point, c'est l'exigence d'une mesure de l'action publique par les résultats, non plus seulement par les moyens octroyés. C'est enfin une réflexion sur le périmètre de la fonction publique ou des fonctions publiques. Oui, je ne différencierai pas chaque fois. Je ne vais pas chaque fois faire la différence entre fonction publique au pluriel ou au singulier. Vous me pardonnerez, mais ça permettra d'être plus fluide sur le discours. Et qu'elle assure en direct. C'est-à-dire ce qu'on appelle classiquement les missions régaliennes, ou sur ce qu'elle peut déléguer. Et quatrième axe qui me semble important, c'est l'intrusion, plus ou moins, ou la perforation, on peut même dire, de la question de l'usager dans les modes de fonctionnement interne. L'actualité particulière, et ce pourquoi on a trouvé important quand même d'avoir une intervention sur le colloque sur cette question-là, c'est d'abord la concomitance de réformes d'envergure, c'est ensuite l'intensité de réformes et notamment l'importance du sentiment d'incertitude qui est renforcé chez les agents des trois fonctions publiques. Ces grandes réformes, elles sont connues maintenant, elles représentent les trois leviers d'action qui là aussi sont une récurrence dans la gestion publique, qui sont l'entrée par les personnes, l'entrée par les finances et l'entrée par la remise en question des structures organisationnelles. Concernant les finances, c'est l'apparition depuis 2001, donc c'est très récent, de la LOLF, qui est la loi organique sur les lois de finances, qui réforme en profondeur la gestion de l'État et en s'appuyant sur un souci de maîtrise de la dépense publique. L'élément essentiel, c'est qu'on est vraiment sur un nouveau mode de gouvernance des trois fonctions publiques. Alors les incidences sont un peu particulières sur les fonctions territoriales, et je ne m'étendrai pas sur l'incidence par ricochet de certaines de ces réformes-là, mais l'incidence est réelle. En substituant à l'ancienne logique de moyens, une logique de résultats et de performance. Deuxième idée qui touche plus sur la réorganisation structurelle, c'est la révision générale des politiques publiques, dite RGPP, qui a été adoptée en 2007 et dont on sent déjà les effets de manière importante, qui consiste, compliqué à expliquer, mais qui consiste à une analyse des missions et des actions de l'État, suivie d'une mise en œuvre de scénarios de réforme structurelle, en privilégiant ce qui permette une réduction de la dépense publique. Voilà un petit peu quelle est cette logique-là. Troisième levier d'action important par rapport à l'évolution justement du travail des métiers et des fonctionnaires, c'est la réduction des effectifs et la réforme du statut de la fonction publique. Donc c'était juste un rappel pour certains, et la plupart d'entre vous, je suppose. Il est difficile aussi d'évaluer les effets de ces démarches-là, d'abord parce que c'est qu'une actualité, les effets ne sont pas directement liés à ces réformes-là, mais s'inscrivent dans une histoire de changement et de réformes. On a essayé de les, pour vous les présenter, de les regrouper autour de quelques grands axes. Le premier, c'est des changements multidirectionnels de repères. C'est des choses que vous retrouverez dans le secteur de l'industrie, de l'entreprise. Il y a certaines interventions y ont déjà fait allusion. Donc j'ai essayé d'essayer de les regrouper autour des changements multidirectionnels. C'est d'abord un changement sur des évolutions sur la finalité de l'action, pour lesquelles on est toujours dans une logique de service public, mais avec de nouvelles obligations de gestion financière et des questions d'efficience, d'évaluation et de contrôle, des nouvelles questions qui concernent les gestions humaines, c'est la gestion prévisionnelle des emplois, etc. Des nouvelles logiques de performance aussi, et j'en ai déjà parlé, avec une logique de résultat et de production. Ce sont ensuite les repères d'organisation qui sont brouillés. Trois grandes idées, là aussi j'ai essayé de recentrer un petit peu autour de trois grandes idées. La première, c'est que sur un socle d'organisation traditionnellement bureaucratique, on a l'utilisation et l'expérimentation de nouveaux modèles d'organisation qui déstabilisent un petit peu les repères classiques autour des organisations que vous connaissez bien, qui sont plutôt centrés sur la qualité usagée, la conduite de projet ou du changement. Deuxième repère qui a bougé, c'est la crise ce que j'ai appelé la crise du territoire de l'intervention publique, avec une confrontation à une logique de regroupement, de fusion, d'absorption des services. Les exemples sont nombreux, vous les connaissez, j'y reviendrai pas, je vous en ai mis quelques-uns sur le PowerPoint. Et y compris, là aussi, c'est une des particularités récentes, c'est jusqu'au plus haut niveau de l'État, avec la fusion de certains ministères ou de directions d'administration centrale, par exemple. Troisième élément qui me paraissait important sur les repères organisationnels, c'est l'externalisation de pans entiers d'activités publiques. Alors on avait des représentants d'agences nationales dans les murs, mais c'est une réalité aussi qui perturbe les repères classiques d'organisation. Vous connaissez tous des agences régionales ou nationales avec des entrées thématiques qui sont la santé, la recherche, des agences immobilières, etc. Un des autres repères qui nous paraît important dans ce panorama et dans ce paysage-là, c'est l'évolution sur les repères juridiques. On a une inflation, une complexification et un empilement des textes qui perturbent le rapport classique aux règles et aux procédures qui ne sont plus ni stables ni prévisibles. Deuxième élément, c'est qu'en lien avec le premier, on a une demande d'expertise croissante des agents, où chaque agent doit à la fois connaître les règles, mais en plus être capable de trouver l'articulation et la combinaison qui est la plus favorable à l'usager. Quelque chose qui nous paraissait assez nouveau aussi. C'est enfin l'intrusion du droit privé dans cette logique de droit public, avec le passage du statut au contrat, l'inscription dans des marchés concurrentiels. Les repères professionnels aussi, j'ai choisi de vous donner juste de mettre l'accent sur deux, trois petits points qui nous paraissaient là aussi importants. C'est un risque de perte de la mémoire professionnelle, avec peu de traces des savoir-faire et peu de transmission des expériences. Alors, en préparant l'intervention, on s'est aperçu qu'on était sur des délais à peu près de 18 à 24 mois. C'est-à-dire que vous avez dans beaucoup de services de l'État, de fonction publique hospitalière, c'est un tout petit peu moins vrai. Mais dans les collectivités territoriales, vous avez de plus en plus le sentiment qu'on ne sait plus ce qui s'est passé au-delà de 18-24 mois. Donc l'inscription dans l'histoire dont parlait M. Berthos tout à l'heure est très largement perturbée. Alors les raisons, elles sont multiples, je ne vais pas y revenir. Et un exemple qu'on peut relier à ça, c'est la floraison actuellement dans les trois fonctions publiques de bases d'expérience ou des guides de bonnes pratiques. Alors les guides de bonnes pratiques sont reliés à des logiques de qualité, mais c'est quand même intéressant de voir qu'on a aussi une floraison par exemple des bases des expériences professionnelles. C'est ensuite sur les repères professionnels, l'émergence par exemple de la fonction publique territoriale, la structuration et le rôle croissant des réseaux professionnels. Ça c'est quelque chose qui est très nouveau aussi, qui perturbe complètement les repères professionnels, les associations de DRH, des directeurs des finances par exemple, qui sont les plus connus, qui sont devenus des lieux d'échange des informations, des lieux de développement des compétences, et dont il serait intéressant de chercher s'ils ne sont pas des nouveaux lieux d'émergence des normes professionnelles. C'est ensuite les repères éthiques sur lesquels il y a des bouleversements. Avec l'émergence de nouvelles valeurs liées à un changement de paradigme dont j'ai déjà parlé, le passage à une logique de performance qui entraîne des valeurs d'efficacité, de transparence, de qualité, de responsabilité qui sont assez fortement portées. Les grandes enquêtes nationales notamment prouvent que c'est assez intégré maintenant dans la fonction publique ces valeurs-là. Par contre, il y a un fossé grandissant avec la pratique qui sont générateurs de dilemmes professionnels. Monsieur Davy en a parlé tout à l'heure, je ne reviendrai pas là-dessus parce que ces questions sont connues, dans lesquelles les agents hésitent entre appliquer simplement les règles ou les consignes en vigueur ou alors personnaliser leurs décisions en se référant à des valeurs implicites. Donc là, c'est bien ce qu'avait décrit Monsieur Davy qu'on retrouve, nous, de manière assez importante. C'est les contradictions qui peuvent générer un sentiment grandissant de bâcler le travail. En fait, un des risques qu'on a repéré sur les trois fonctions publiques, c'est celui d'un management qui mobilise la volonté de bien faire dans un contexte auquel l'agent n'adhère plus forcément, et notamment l'appui sur la culpabilisation. C'est ensuite les repères sécuritaires qui nous paraissent avoir bougé, avec notamment la fragilisation des statuts, la suppression de certains métiers, la diminution des corps et des cadres d'emploi. C'est ensuite la perméabilité des trois fonctions publiques, c'est-à-dire sur un espace plutôt protégé, plutôt sécurisé, on a l'ouverture des recrutements, la multiplication des bourses à l'emploi, la mutualisation des corps qui sont communs et l'encouragement à la mobilité. Et un recours croissant au contrat, et je crois que ça a déjà été évoqué dans d'autres interventions. Sur les repères sécuritaires aussi, plus du côté de l'éprouvé, on est sur un passage de l'impersonnalité au risque d'exposition personnelle, avec cette idée où on a une forme d'inhibition d'initiative finalement, où l'initiative serait rendue difficile et compliquée, et avec un rendu compte qui peut aller y compris jusqu'au pénal. Quelque chose qui est très nouveau là aussi dans la fonction publique. Deuxième idée, deuxième élément qui nous paraissait important sur les effets un petit peu de ces grandes évolutions, c'est une forte recomposition des activités et des compétences. Je vais essayer de passer vite sur certains points parce que là aussi c'est des choses qui sont connues. C'est un besoin accru de polyvalence et de spécialisation, l'augmentation des tâches et activités par sédimentation et des transferts de technicité. Le besoin accru de polyvalence, là aussi c'est quelque chose de nouveau, et de spécialisation, il est valorisant et c'est un outil de management qui est reconnu maintenant dans les trois fonctions publiques. On note quand même un risque de déprofessionnalisation et de passage d'une logique de subsidiarité et d'interchangeabilité entre les agents en fait. L'augmentation des tâches et d'activités par sédimentation, là aussi c'est des choses qui sont connues, c'était un rappel que je souhaitais faire maintenant, avec l'idée de la surprescription de tâches, c'est-à-dire qu'on a des réformes organisationnelles notamment qui sont extrêmement importantes, et une demande croissante, je vous ai mis l'exemple parce qu'il est connu aussi, de statistisation, c'est-à-dire de rendu compte de l'activité qui s'ajoute en plus d'autres activités. Donc on est sur des reconfigurations et des recompositions où on a une forme de surprescription finalement de tâches. J'appelais ensuite l'ajout de fonctions satellisées qui sont très chronophages, c'est-à-dire ces grands bouleversements génèrent de nouvelles places, de nouvelles fonctions qu'on a appelées satellisées. C'est par exemple sur une réorganisation, on vous confie par délégation ou la représentation de la gestion de nouveaux dossiers qui viennent d'arriver. Voilà, donc là aussi, ça veut, globalement, ce qui est pointé, c'est que ça perturbe le temps qui est laissé pour l'inventivité et l'innovation. C'est ensuite des transferts de technicité, là ils sont connus donc j'y reviendrai pas. C'est des transferts descendants avec une responsabilité accrue des échelons inférieurs. L'exemple des gardiens de la paix, il est vraiment intéressant à ce sujet-là, puisqu'ils font actuellement ils ont actuellement des prérogatives de police judiciaire, prérogatives qui étaient jusque-là dévolues au commissaire, c'est-à-dire à des échelons N+2. Ou alors des transferts montants avec par exemple une augmentation très importante des tâches de secrétariat pour les cadres intermédiaires. Alors, troisième point qui nous paraissait important là-dessus, c'est des frontières de métiers qui sont mouvantes. Le travail de fonctionnaire n'est plus seulement une activité généraliste d'exécution de consignes qui sont préétablies et qui sont dans la déclinaison de l'application des textes, mais devient de plus en plus une activité technique de résolution de problèmes. La demande d'expertise est plus forte et s'inscrit dans une logique plus pressante de compétences qu'on retrouve dans les politiques de recrutement notamment ou dans les politiques d'adaptation à l'emploi. Nous sommes dans une logique de fonction publique des métiers qui réinterroge les repères ontologiques, c'est-à-dire qu'avec cette question de qu'est-ce que c'est qu'être fonctionnaire aujourd'hui. On a l'apparition et la création de nouveaux métiers, l'apparition aussi, la vie finalement, l'apparition, la suppression de métiers, avec une prévalence là, on s'aperçoit que les nouveaux métiers sont plutôt dans les filières d'encadrement, sur des postes de médiateur, d'auditeur, de pilote de projet, contrôleur de gestion, etc. Et plutôt un appauvrissement, voire une disparition de certains métiers d'exécution. Alors ces évolutions-là, dans la vie des métiers, j'ai envie de dire, sont observées, sont étudiées dans les observatoires des métiers, qui s'appuient sur la réalisation de répertoires des métiers pour chaque fonction publique. Donc chaque fonction publique a un répertoire des métiers qui essaye d'identifier et de voir un petit peu la manière dont les choses bougent. Dans les discussions qu'on a eues au moment de préparer l'intervention, on se posait la question de savoir s'il ne faudrait pas vérifier si cette démarche-là de répertoire de métiers, confrontée aux impératifs de gestion et de maîtrise de la dépense publique, ne contient pas en germe un risque de déprofessionnalisation en amenant à faire des compromis et des arbitrages entre le plus petit dénominateur commun d'objets de plus en plus éloignés. On avait cette interrogation-là. Alors, savoir si les identités professionnelles sont troublées, c'est évidemment très compliqué, c'est évidemment impossible. Deux questions nous ont paru, on avait envie de partager deux questions avec vous. La première, c'est un étonnement, et la deuxième, c'est une piste de réflexion. L'étonnement, c'est la permanence dont on se rend compte du questionnement des fonctionnaires sur leur identité professionnelle. On s'aperçoit qu'à tout temps, depuis que la fonction publique, les fonctions publiques existent, on a ce questionnement sur l'identité professionnelle du fonctionnaire. On avait envie de proposer l'hypothèse suivante, c'est que cette permanence-là s'appuie sur trois ressorts. C'est d'abord une action quotidienne qui est construite sur la recherche d'équilibre et de compromis entre les demandes des usagers et les règles applicables, dans un questionnement qui est permanent et dans du lien mouvant entre le local et le global. Et ça fait partie des grandes forces, j'y reviendrai. Deuxième hypothèse, c'est une reconnaissance du travail qui est plus fragile parce qu'elle s'appuie sur un jugement d'utilité qui est public et qui est porté de manière nécessairement médiatisée par le champ médiathèque et politique, puisqu'autrui est constitué de l'ensemble des bénéficiaires, en l'occurrence des citoyens. Troisième idée, c'est que s'il y a une sensibilité plus importante, voire un refus de l'identité prescrite, ce refus peut prendre la forme d'une démonstration identitaire fondée sur une logique de l'honneur dont un des ressorts pourrait bien être la culpabilité. Autrement dit, plus que d'autres corps ou d'autres métiers, on est parti de l'hypothèse que le fonctionnaire s'était construit plus contre, avec une perception autour des idées reçues que vous connaissez, etc., du travail du fonctionnaire, et qu'il y avait une sensibilité plus importante par rapport à cette question-là. Deuxième idée, deuxième piste de réflexion c'est un petit peu la manière dont ces identités professionnelles bougent, c'était la question du rapport au temps. La question du rapport au temps, M. Berthoz l'a dit tout à l'heure, l'identité se construit dans un rapport au temps où finalement on métabolise le passé pour en faire quelque chose pour l'avenir, avec mes mots à moi, et on trouve là aussi qu'il y avait des perturbations extrêmement importantes qui avaient lieu sur ces repères-là. Les incidences de ces questionnements et la récurrence de ces questionnements, vous les connaissez, c'est la question de la mise en place de la RTT, des craintes autour des cycles de travail, dans les trois fonctions publiques, vous avez ces questions-là, de la gestion des plannings, c'est des choses qui reviennent quel que soit l'endroit où vous le trouvez, des décomptes du temps de travail en heure ou en jour, de la variabilité de l'activité. Jusqu'au début du siècle, le travail des administrations s'inscrit dans un cadre vécu comme intemporel, hors du temps, dans lequel l'incertitude est très limitée. Dans une logique de permanence et de continuité de la puissance publique, le passé est tout à fait connu, le futur l'est aussi. Les trajectoires professionnelles sont prévisibles et varient peu, et les projections sont faciles. Les fonctionnaires travaillent à l'application stricte de règles qui sont identifiées et effectuent plutôt des tâches répétitives. Travailler dans l'instant et dans une structure intemporelle laisse du temps. Ce rapport culturel au temps va être profondément bouleversé par des changements rapides et brutaux, pour partie déjà évoqués, et pour lesquels le travail s'inscrit dans un temps immédiat, rentable, contrôlé et qui s'est contracté, la compression temporelle dont parlait l'intervenant tout à l'heure. Il se réalise dans un contexte de concurrence et de changement permanent, dans lequel la pression temporelle augmente de manière importante. Quelques exemples pour illustrer ce que je dis, c'est par exemple la réduction du nombre de fonctionnaires et l'augmentation de la charge de travail. C'est par exemple le passage d'une culture de la règle à une culture de service, dans laquelle la relation plus directe avec le public, sur les questions de l'accueil, de l'écoute, de l'individualisation, renforce le sentiment d'urgence. Ça veut dire que cette pression temporelle augmente aussi par ce biais-là. Une logique de performance plus gestionnaire et plus oppressante qui s'accompagne de contrôles plus étendus et plus stricts. Deuxième idée sur le rapport au temps particulier culturel, c'est des frontières qui ont bougé dans les rapports entre le politique qui décide, dont le temps s'est raccourci et s'est accéléré, entraînant en synchronie le temps administratif, qui est plutôt traditionnellement sur des tâches d'exécution. On a ensuite l'accélération technologique et multiplication des possibilités d'échange. Ça a déjà été évoqué, j'y reviendrai pas. Alors, les effets par rapport à ça sont connus. On a parlé tout à l'heure des risques psychosociaux et des risques en termes de pathologie du travail, j'y reviendrai pas. Une autre conséquence était sur le management public, deux points et je vous laisserai là-dessus, c'était l'apparition d'une déconnexion entre le temps du cadre dirigeant et celui des opérateurs, dans lequel les cadres intermédiaires sont chargés de traiter les tensions qui sont générées par cette déconnexion, en développant des compétences dans la gestion de la crise et la gestion de flux. Deuxième idée, c'est l'apparition, et c'est nouveau, d'un management d'anticipation, qui inverse complètement le rapport au temps, en construisant les évolutions en référence à des échéances et non plus à des décisions. Là, le mécanisme est subtil, mais les bouleversements induits sont très importants. La différence pour les cadres dirigeants, c'est qu'ils travaillent de plus en plus à la construction préalable de l'adhésion des acteurs, à partir de stratégies d'évolution et de scénarios construits sur des informations dont la fiabilité est recherchée. Alors les perspectives, elles peuvent paraître complètement pessimistes, elles ne le sont pas, je ne crois pas en tout cas, elles sont plutôt encourageantes. D'abord parce qu'il existe une conscience professionnelle très forte qui s'appuie sur des valeurs qui sont immuables même si elles évoluent. Ensuite parce qu'il y a des compétences qui sont reconnues. Ensuite, une grande capacité à relier le local et le global, et ça nous paraissait une compétence importante et une observation importante s'agissant des fonctionnaires. Alors ensuite, parce que la réflexion avance sur les conditions de réussite de ces réformes et de ces réorganisations, notamment dans un contexte européen, il ne faut pas l'oublier, et sur les points d'attention à avoir, mais j'essaie d'en citer plusieurs, le choix des modes d'organisation du travail, l'intérêt d'une réflexion permanente sur les valeurs, la construction préalable de l'adhésion des acteurs, le travail sur le sens de l'action et une pédagogie de l'information, l'explicitation des réformes, la gestion à la fois statutaire et personnalisée des ressources humaines, la responsabilisation des détenteurs de l'information, le travail de reliage de nouveaux liens entre le management et le contrôle de gestion, la séparation de l'activité du contrôle, etc. Je vous remercie.